Hey, salut à vous, auditrices, auditeurs, Danten Dog, jardiniers et jardinières du Lot. Et d'ailleurs, peut-être, nous sommes sur l'émission Comme un jardin, présentée par votre serviteur, le jardinier Stéphane, ici présent, oui. Mais aussi, aujourd'hui, émission exceptionnelle avec deux invités. Deux invités qui sont là pour nous parler, évidemment, de jardin. Bon, bref, de jardin. Et d'un jardin qui s'est constitué sur la jolie ville de Cahors. Ou du moins dans ses banlieues. Jardin de banlieue, non, il y en a aussi dans le centre. Eh bien, aujourd'hui, je souhaiter la bienvenue à Christelle et à Manu. Salut à vous, mesdames et messieurs.
Bonsoir.
Bonjour Stéphane.
Bonjour, bonsoir. Bon, on est là. Vous souhaitez parler d'une association qui s'appelle
Autonomie Alimentaire Cahors.
Bien, et vous faites...
On fait du comestible et de la diversité végétale sur l'espace public.
Bien. Et où exactement?
Ben, on a deux jardins. Le premier qu'on a fait en centre-ville, l'Agora d'agriculture urbaine. Et le jardin forêt communal de Cabessu, dans le quartier de Cabessu.
Bon, très bien. Merci Manu pour cette information. Mais on a aussi une certaine Christelle. Mmh. Bienvenue Christelle. D'où viens-tu? Que fais-tu?
Wow, merci de m'accueillir. Stéphane, je suis native du Tarn-et-Garonne et j'habite Cahors depuis 7 ans. Et j'habite pas très loin du jardin forêt de Cabessu.
Mais et en plus, t'as un très joli accent.
Accent du Tarn-et-Garonne.
Mais oui, on l'attend, on l'entend. Génial. Bon, ben voilà, alors on peut commencer notre émission. Alors, on parlera de jardin en diversité, hein, autant planter, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est fait? Est-ce qu'on abonde? Est-ce qu'on amende? Bon. Et avec qui et comment? Alors, voilà, Christelle, t'es venue quand même volontairement, j'ai lancé l'appel et tu m'as dit j'ai envie de parler de quelques sujets qui m'intéressent. Évidemment, je te demanderai tout simplement, mais pourquoi viens-tu à ce jardin associatif? Qui fais-tu? Quoi fais-tu? Que plantes-tu? Quel bénéfice, quel fruit en as-tu tiré?
Waouh! On a combien de temps là?
Lance-toi, on a le temps, on a le temps.
Donc moi je suis une aide-soignante, voilà, spécialisée dans les démences et le projet du jardin forêt de Cabessu est venu au moment où j'en avais le plus besoin, c'est-à-dire au moment où il fallait que je réfléchisse et que je pense à mon métier. Et comment surtout garder un équilibre dans ma vie personnelle pour pouvoir dépasser ce qu'on venait de vivre avec le Covid. C'est une réalité que j'ai vécue. Et donc ce projet m'a attirée. Et comme je suis issue de famille de la terre, voilà, j'ai des deux côtés de mes familles, voilà, italienne et française, c'était la terre et les agriculteurs. Et du coup, moi, j'ai toujours connu la terre. Toute petite, mes parents faisaient un petit jardin dans le petit village où j'ai grandi. Et voilà. Et puis après, je faisais chez mes grands-parents les conserves, voilà, la transformation des légumes.
Une vraie de la campagne. Moi aussi, j'en suis.
Donc voilà, c'était déjà un pour ça. Et puis il y avait la partie importante pour moi, c'était l'autonomie alimentaire. Donc si je repensais mon métier, il fallait que quelque part j'arrive à gérer mon quotidien financièrement, puisque je suis une maman solo. Et du coup, voilà, j'avais envie d'aller expérimenter ça. En tout cas, de trouver un équilibre entre ma vie professionnelle, ma vie de femme, ma vie de mère. Enfin voilà, il fallait trouver l'équilibre.
Génial.
Qu'il fallait.
Et tu as trouvé cet équilibre dans ce jardin?
J'ai trouvé cet équilibre, en tout cas, dans l'expérience du jardin et
dans le jardin forêt.
Dans le jardin forêt.
Et
ouais.
À l'Agora, donc dans le centre de Cahors aussi, tu participes.
Oui,
j'y
participe.
Depuis combien de temps?
J'ai intégré en 2021. Début 2021, au début du projet jardin forêt.
Et oui. Magnifique.
Ouais.
Et bien continue, qu'as-tu ressenti, qu'as-tu vu, qu'as-tu...
Alors déjà, ce que j'ai ressenti, c'est quand on est arrivé dans cet espace vide, qui est le jardin de Cabessu, qui fait à peu près 8000 m². Ouais, voilà. Déjà, c'est l'espace vide, c'est-à-dire à un moment donné, il va falloir passer dans la matière et, oui. Et construire ce projet et y aller avec les mains, quoi. Et plus que les mains, parfois, il fallait y aller avec le cerveau. Bon, on en a à côté un bon cerveau. Et du coup, voilà, il fallait mettre en pratique tout ça et oser. Je pense que c'était oser aller au bout de cette construction de lieu pour en faire un lieu qui va accueillir et qui va vivre avec plein de projets.
Et alors, tu as trouvé ça excitant, tu t'es dit une page blanche.
Exactement.
À notre création. Bon, il y avait quand même une prairie. Hein. Moi qui ai un point de vue de botaniste, c'était pas non plus totalement vide. On peut pas le. Mais bon, il y avait de l'espace. Merci à la commune d'ailleurs. Hein. Précisons-le, Manu, un petit mot pour les gens de la commune qui...
Oui, la commune a mis à disposition cet espace.
Magnifique.
On est conventionné avec eux pour, ouais. Voilà, pour développer ce projet.
Bon, il n'y a pas l'eau et l'électricité non plus.
Non,
il n'y a pas. C'est juste un terrain vague pour y accéder, un petit chemin, une zone un peu morte, quoi.
Ouais, il avait l'avantage, ce terrain, de ne pas être trop demandé, du coup, et on a pu, du coup, y avoir accès. Donc, voilà, c'est bien.
Donc, d'entrée de jeu, qu'est-ce que vous y avez fait? Quelles étaient vos envies?
L'idée, c'était déjà d'adapter le lieu à des passages, établir des zones, mettre en place des chemins, réfléchir à notre approvisionnement en eau. Bon, on a fait le choix de la collecte d'eau de pluie. Et ensuite venir implanter toutes sortes d'arbres pour le long terme, le moyen et le long terme, et puis pouvoir exploiter entre ces lignes d'arbres des surfaces maraîchères pour commencer petit à petit à faire un jardin partagé collectif sur l'espace public.
Ok, voilà. que des légumes et des arbres, pas d'animaux.
Bon. C'est la difficulté du suivi, quand on n'est pas sur place constamment avec un habitat juste à côté, il est un peu difficile de vraiment s'occuper d'arbres. Enfin, s'occuper d'arbres déjà, c'est du travail d'arbres et de légumes. Je pense qu'on va établir des choses avant de penser éventuellement à des gallinacées avec des poules ou autre chose.
Et alors toi, Christelle, oui. Tu connais le sujet, tu as déjà cultivé des tomates, oui. Tu connaissais la matière, la terre, tu savais un peu, tu avais déjà jardiné, non ?
J'avais jardiné déjà dans une autre vie.
Non, je veux dire, si tu étais de ta famille, dans ta famille,
oui, voilà.
Vous aviez le jardin.
Voilà, moi, j'ai pas du tout de technique, de science.
Tu l'as vu faire.
Je l'ai vu faire. Après, j'ai une expérience, quand j'étais jeune, j'ai fait... J'allais pas dire comme la plupart des jeunes, mais je suis allée castrer le maïs, ramasser les prunes.
Normal.
Ça a fait partie de ma jeunesse. Et ensuite, j'ai intégré une entreprise aussi qui est vendeuse de semences. Voilà, dans le Tarn-et-Garonne, qui s'appelle Cossade Semences. Je fais
Cossade.
La pub. Là. Et du coup,
oui.
J'ai bossé dans le centre de recherche. Et en fait, on était plus dans le côté colza. Moi, j'étais dans le service colza.
Dans le centre de recherche
de Kaira Caralula.
Mais qu'est-ce que t'as étudié pour bosser dans un centre
c'était
de recherche?
Juste des mains, c'était juste mes mains. Moi, j'avais besoin de bosser. Mon père, il travaillait.
Trier des graines, à faire les petites
mains. Non, préparer les plants de semis, s'il te plaît.
Oh, d'accord. Pardon, c'est du travail de pépinière, alors. Oui, d'accord. Du travail de pépinière pour des semenciers, tout simplement.
Pour des semenciers, dans le labo aussi.
Bon, ça pourrait être Syngenta, ça pourrait être Monsanto.
Cocopelli.
C'est les mêmes. Je pense qu'ils travaillent ensemble, peut-être que dans... Comment il s'appelait le nom de cette entreprise?
Le nom, Cossade Semences.
Cossade Semences. Non, mais ils font de l'hybride, forcément, un peu. Bon, c'est normal, ça reste à l'agriculture, c'est utile. Et on s'en sert encore allègrement. Vive les tomates hybrides. Moi, j'ai rien contre. Je trouve ça plutôt génial. Mais bon, ce sont des sujets à aborder. Et alors, vous êtes mis à faire du plan, tu as participé à la production du plan,
oui.
Etc.
Oui, au CER municipal de Cahors, à partir du mois de mars-avril.
Oui, février même. Février, oui.
Voilà, donc...
Vous avez produit du plan toute l'année.
À foison.
Oui. Génial. Et vous avez planté, ensemencé, vous avez planté quelques arbres encore,
oui.
Cet hiver.
On a semé même des arbres, quelques poivriers du Sichuan... Un petit peu d'arbres à salade, le tuna sinensis, on essaye de semer au maximum. Hein,
normal.
Acheter des plants, c'est pas la même chose que faire soi-même son semis.
C'est important, c'est important pour ceux qui s'aiment. Mmh. Et oui, semons.
Vive l'amour.
Non mais génial. Et donc clôturé aussi, c'est un espace qui a été protégé un peu contre les chevreuils. Des chemins, tu disais, ont été créés, donc des grands coups de tondeuse en travers.
Des piquets pour baliser.
Des piquets pour baliser, c'est important pour opérer la géométrie générale. Bon, beaucoup de prairies, fondamentalement. Hein, bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette prairie
ben, elle est riche, il y a beaucoup de panais sauvages.
Ah, ouais. Le panais, ouais. S'il est mort, c'est qu'il est pané. Ouais. Mais bon, comment ça se fait du panais sauvage, ok, quoi d'autre?
Bah, de la fétuque, le classique. Ah. Hein, là, un peu de chien-dent, les rois, oui, les princes de la région, enfin de partout.
Oh, non, mais ça c'est rien, c'est rien, chien-d'un. Quoi d'autre?
Ouais. Du trèfle, du chardon, beaucoup de graminées aussi, hein, forcément, oui. Beaucoup de plantes céréalières sauvages,
oui.
Voilà, toutes sortes de plantes, du trèfle.
Et une rose assez piquante, laquelle?
Une rose assez piquante.
La plus piquante des rosacées. Allez. Devinette. Devinette ce soir, quelle est la plus piquante des rosacées?
Le rosier rugueux.
Non, qui est un précurseur de la forêt.
Ah, la ronce.
Bien sûr.
Bien sûr.
Je vous laisse parler.
La ronce. Ah ouais, la ronce. Et oui, il y en a eu beaucoup de ronces. Elle apparaît spontanément. Ouais, elle est vigoureuse.
Mais on a des zones de succession végétale. On a une zone où vraiment on laisse les successions végétales. Et la ronce a évidemment toute sa place à cet endroit.
Et toi, Christelle, t'as appris des trucs? T'as pu apporter quelque chose?
Alors, comment dire? Appris, je ne sais pas si j'étais pas tout à fait prête à apprendre, en fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai verbalisé d'entrée. C'est surtout, ne venez pas avec votre science. Ne venez pas me dire qu'il faut que je retienne des noms ou ça a été compliqué, parce que c'était pas c'était difficile pour moi à ce moment-là. J'avais vraiment besoin de revenir à la terre, de voir une autre réalité que celle que je venais de vivre, en fait. Voilà, c'était important pour moi.
Génial. Et alors, ça, enfin, concrètement, voilà, t'as fait du plan, mais c'était Manu qui dirigeait un peu. Comment vous êtes organisé? Parce que l'organisation, pour moi, c'est important. On accueille quelqu'un, on accueille du monde. Combien de personnes d'ailleurs à ce jardin?
Bah, écoutez, on a un cercle de bénévoles assez large, de gens qu'on contacte pour venir avec des groupes, groupes sur réseaux sociaux.
Quand même.
Donc on a, on a dit entre 30 et 40, 50 personnes qui pourraient venir, mais après il y a l'équipe.
Qui vient occasionnellement, très occasionnellement. Vous avez une cinquantaine de sympathisants qui passent sur le terrain.
C'est ça. Et puis, une équipe de base, comme dans beaucoup de projets, où on est 6, 7, 8, 9, ça change selon les obligations et les possibilités de chacun.
Ouais, parce que quand même, il y a du taf, quoi. Quelle surface ?
Mais 8000 m² plus même, les 400 m² de l'Agora en centre-ville.
C'est du taf très présent, toi, Manu. Christelle aussi, de plus en plus.
Moi, j'ai une super expérience avec Manu, je tiens à la partager parce que pour moi, elle a vraiment son sens. C'est que. On parlait de récupération d'eau de pluie. Et l'expérience d'apprendre à faire de la mini-pelle avec Manuel, qui est assez grand dans ce qu'il représente. Et en plus de ça, il fallait qu'à un moment donné, ce projet.
On a envoyé du lourd.
On a eu la chance.
Parce que vous avez creusé des mares.
Exactement. Oui. Avec Pauline, qui n'est pas là. Mais,
Qui démarre a des mares. Il faut démarrer avec des mares. Si tu démarres pas avec quelques mares, à la fin, t'en as marre. vous trouverez ça marrant, j'en suis sûr.
Oui.
Donc, c'était ça. Donc, l'expérience, c'était... Moi, j'avais jamais fait de mini-pelle, mais je me disais... Il faut y aller, il faut le faire.
J'ai mis du lourd.
Et puis, il y avait Manuel qui avait dans la tête, je pense, le plan. Donc, c'était... Action, je te regarde, tu me dis clac, clac, et puis en fait, on y est arrivé.
Un duo de choc s'est formé à ce moment-là.
Un trio même, parce qu'il y avait Pauline.
Il y avait Pauline.
Ah, c'est bien. Bon, ça, c'est important, des parties plutôt à 3, 4, ça équilibre bien les choses, ça permet de... Voilà. Et j'admire l'auto-organisation spontanée, mais bon, au-delà de ça, il devrait y avoir quelques difficultés aussi. C'est pas si simple, peut-être, je connaissais un vieux monsieur du nom de Pierre, j'ai oublié son nom de famille, qui parlait du PFH. PFH.
PFH.
PFH, plan.
Il parlait du putain de facteur humain.
Ah oui.
Parce que c'est important, l'être humain. J'aimerais qu'on aborde ce sujet. Bon, en attendant, nous sommes arrivés à la moitié de notre émission. Nous allons faire une petite interlude musicale et reprendre après sur quelques autres sujets et autres questions que j'ai à vous poser. À dans quelques minutes et vive la musique.
s'offre, là où la vie nous mène, en symbiose avec nos forces, soufflons sur les braises pour qu'elles prennent, à casser la coquille, à libérer l'idylle, à multiplier ta beauté par 10 000. Je ne suis pas venu au monde pour te voir te consumer. Je ne peux t'entendre parler d'amour sans l'incarner. Que la joie soit notre mot de passe, le signe de ralliement, que le silence ne lasse. Le bonheur simple d'être sur terre, d'être regardé dans les yeux comme le meilleur des frères. La chance comme une infinie prière, la chance comme un infini mystère. À l'ambassade du monde, explorateurs de tout pays unissent leur cœur autour de la table ronde et sèment leurs graines à l'infini. À la portée de ces rencontres, poussière d'étoiles sur une partition, à la couleur des notes que l'on raconte, indicible mais visible à nos émotions. Du bonheur simple d'être sur terre, de te regarder dans les yeux comme le meilleur des frères. La chance comme une infinie prière. Bonheur simple d'être sur terre, de te regarder dans les yeux comme le meilleur des frères. La chance comme un infini mystère. Cerf-volant à l'azimut d'un Titanic enivré, des baobabs étirent leurs branches lentement et magnifient nos racines pour s'envoler. Une brise de matin et une goutte de rosée en élixir vibrant pour nous réveiller. Une brise de matin et une goutte de rosée en élixir vibrant pour nous connecter. Au bonheur simple d'être sur terre, te regarder dans les yeux comme le meilleur des frères. La chance comme une infinie prière. Du bonheur simple d'être sur terre, te regarder dans les yeux comme le meilleur des frères. La chance comme un infini mystère. Simple d'être sur terre, de te regarder dans les yeux comme le meilleur des frères. La chance comme une infinie prière. Du bonheur simple d'être sur terre, de te regarder dans les yeux comme le meilleur des frères. La chance comme un infini mystère. La chance.
L'interlude musicale vient de s'achever. C'est assez extraordinaire. On a fait un bond dans l'espace-temps. La réalité peut être allongée, raccourcie. Bref, elle est subjective. Beaucoup de personnes, beaucoup de choses. Alors, moi, je suis d'une nature assez prudente et je me méfie des choses. Et je pense toujours à mal. Ça, c'est mon problème. C'est mon côté un peu maléfique. Mais pas forcément dans le maléfisme, mais pour prévenir le mal, prévenir le mauvais œil. Tout ne peut pas bien fonctionner. Parfois, les plantes crèvent. Parfois, la sécheresse, l'humidité, les conditions arides, les erreurs terribles de l'expérience de la vie qui nous fait prendre des chemins qui peuvent être fatales. Et certains arbrisseaux à peine plantés, voilà qu'ils crèvent bêtement. Que se passe-t-il? Pourquoi ça ne pousse pas? Mais globalement, enfin, vous en êtes heureux. Christelle est une positiviste, c'est sûr. Manu, il n'y aurait pas des trucs qui... Ça bug de temps en temps, quand même.
Évidemment, on découvre, on apprend. Les citoyens se réunissent pour faire du jardin. Il faut expérimenter des choses. Il faut savoir aussi... prendre les conseils de la part de différentes personnes et essayer de à la fois observer et puis ben, mettre en place, essayer de rectifier certaines petites erreurs. Puis il y a des erreurs qu'on fait, qui ne sont pas des erreurs à la base, mais c'est des conditions dans lesquelles on les fait.
Ah.
Nous, par exemple, on a utilisé beaucoup de broyat. Ça nous sert à garder l'eau dans des périodes sèches, comme il en arrive ici, même si cette année est plutôt pluvieuse. Et donc, bah, avec le broyat de bois, il arrive qu'on ait un petit peu des petits contretemps sur la progression des arbres. Bon, cette petite fin d'azote à l'occasion. Il faut un peu, essayer d'amender, d'apporter quelque chose à l'arbre à l'occasion, l'observer. Et donc, voilà, on essaye de s'adapter, hein, surtout. Ah. Hein, de toute façon, c'est observation, adaptation et puis action, avec action concertée et avec ensemble, quoi.
Voilà. Ouais, bien. Et alors, vous avez fait des choix techniques particuliers. Moi, je suis un adepte du bon vieux classicisme, du fumier, du compost. Moi, je suis un grand composteur. Je kiffe le compostage. J'ai appris qu'il y avait même des maîtres composteurs. C'est pour dire comment on peut être à fond dans le compostage. Vous avez fait des tas de compost ou qu'est-ce que vous avez fait?
Non, là, on est...
Vous n'avez pas fait de compost?
Alors, on s'y met progressivement. On s'y met progressivement. On a hérité, nous, de terres qui n'avaient pas été travaillées depuis plus de 20 ans. On colonise petit à petit l'espace.
Vous colonisez? C'est quoi ces termes?
On sait que une terre reposée a quand même pas mal de ressources et de minéraux, des choses à manger dans le sol naturellement. Donc on n'a pas fait effectivement une priorité du compostage, mais on y vient de manière évidente à force de planter, de faire pousser.
Cool. Voilà. Ok, pas de compostage. Quels sont vous avez creusé des mares, vous avez planté des arbres. Combien d'arbres vous avez planté là?
On est à peu près à 300 arbres de familles différentes.
Quand même. 300 sur 8000 mètres carrés, ça fait combien par mètre carré? Je sais pas, calculatrice.
Ouais. Mais il nous reste encore beaucoup de place, surtout. Il nous reste beaucoup de place encore pour en implanter progressivement d'autres, de toutes sortes. Et puis avec un maximum de familles différentes, où on est plutôt sur un aspect éducatif de diversité, avec quand même en point de mire une certaine autonomie alimentaire. Mais évidemment... le but, c'est d'avoir donc un maximum de diversité pour prévenir certaines maladies qui attaqueraient une famille et avoir...
C'est sûr que celle-là, vous êtes loin de la monoculture. Vous diversifiez au maximum. À chaque mètre, un arbre différent, quoi.
Mais oui. On est diversifié déjà, nous.
Des êtres humains?
Bah oui.
Ah oui. Oui, parce qu'en général, nous, on se concentre en ville, on range les gens dans des immeubles, on case facilement les choses. En angle droit, décide de préférence. Mais là, vous avez fait quand même il y a des lignes droites. Bon. C'est important.
Il y a aussi
des virages, des courbes. Vous cherchez un peu l'alternative. Vous voulez pas non plus, rentrer dans le productivisme ou une approche, on va dire...
maximaliste?
Oui, ou qui cherche le profit.
C'est effectivement pas l'objectif.
Le profit, c'est filin, oui. Le profit.
Non, nous, on est vraiment sur faire découvrir des plantes, faire découvrir, les découvrir nous-mêmes et les faire découvrir. Et donc, la diversité pour nous, ça compte, qu'il y ait des vivaces, les différentes strates d'une forêt, d'avoir les herbacées vivaces, les buissons, les petits fruits.
Ça, c'est un peu l'idée générale, le dessin de votre jardin, parce que on dit dessin en français, pour ceux qui font de la permaculture, ils anglicisent, ils disent design. Mais vous avez quoi? Vous avez des objectifs particuliers? Quels sont vos objectifs dans ce jardin? Vous voulez produire des quantités, vous voulez fondamentalement nourrir avec de la matière, enfin, où il y a parce que là il y a d'autres intérêts. Je veux dire, s'il y a de la diversité, il y a l'aspect pédagogique peut-être qui prend beaucoup de place.
Ben il y a un véritable aspect social qui compte beaucoup pour nous, c'est-à-dire c'est de se retrouver au jardin, c'est se reconnecter les uns aux autres, faire les choses ensemble. Et ça demande du temps. Il faut s'adapter les uns aux autres. Donc c'est aussi important presque que les plantations elles-mêmes et l'entretien. Ce qui compte, c'est faire les choses ensemble et puis pas se limiter uniquement au jardin. On essaie aussi de s'ouvrir à des idées, faire des ateliers aussi un peu diversifiés sur d'autres sujets.
Bien sûr.
On a eu récemment Guillaume Roussy là qui est venu faire des instruments de musique avec justement des courgettes, des cannes de Provence, voilà. Mais avec aussi des courgettes, des tubes de courgettes.
Génial.
Bon, c'est voilà. Donc
il y a des gens qui interviennent. Il y a Rémi Champier, Rémi Kulik
est passé aussi également.
Qui est passé.
Allé visiter aussi.
Oui, je sais pas. Il y a mon ami Ouriel aussi qui est venu faire
Ouriel
des greffes.
Est passé, ouais, nous faire un atelier greffe, c'était super. Génial. Belle connaissance des plantes et des arbres.
On a eu Adam Houlier qui est venu pour nous montrer un peu les gestes et postures du maniement, du mat.
Mais oui, voilà. Alors ça, c'est des choses qui me paraissent vraiment essentielles, quoi. Ce lieu est aussi un énorme support pédagogique qui permet de la vulgarisation, qui est vraiment génial.
Bon, mais le but, c'est de manger quand même, hein. Faut pas oublier ça, hein.
C'est certain.
C'est l'objectif en tout cas.
En tout cas, cet hiver, vous allez manger peut-être un peu des poireaux, j'espère.
Des poireaux.
Il y a quelques associations qui en ont fourni quelques poignées. Je pense que des tomates, bon, il y en a encore pas mal à ramasser. Vous n'avez pas fait du maïs, vous avez fait du sorgho.
Oui.
Vous allez manger du sorgho.
On va manger du sorgho, une sorte de mille.
Vous mangez du sorgho parce que nous on le donne aux poules dans le Tarn-et-Garonne c'est plutôt pour l'élevage.
C'est le degré de faim des populations, évidemment. On n'a pas très faim dans nos sociétés.
C'est
mais...
une plante qui supporte bien le manque d'eau en plus. Le sorgho mieux que le maïs. Bien poussé, il a donné quand même.
Il a bien poussé. Il y a des variétés qui permettent de faire de la mélasse de sucre
bien
aussi.
Sûr. Et avec le feuillage, vous ne pourrez pas le donner aux vaches parce que traditionnellement on donne les fans. Aux vaches,
pourra le composter peut-être.
Une bonne idée, c'est peut-être l'occasion de tester le compostage de feuilles de
sorgho.
De sorgho. Allez.
Oui, un petit peu de quinoa aussi. Bon, le but c'est vraiment d'avoir de la diversité. On mangera en quantité à un autre moment, peut-être, mais en tout cas, on va déjà garder nos graines. Ça, c'est quand même très important. Garder nos graines pour
graines,
tout ce
graines
qu'on
de tomates, qu'est-ce que vous faites comme
évidemment les cucurbitacées ont tendance un petit peu à s'hybrider entre elles. Bon, on va essayer de se concentrer sur les plantes qui s'hybrident moins, mais là le sorgho ça va nous donner beaucoup de graines. La quinoa aussi, on a fait beaucoup de fèves, on a beaucoup de graines. On nous avait donné quelques graines, on les a multipliées et maintenant on va pouvoir enfin en manger beaucoup.
Oui, parce que si on ne produit pas grand chose, vaut mieux garder les quelques fruits pour garder la graine pour l'an prochain si on réussit un peu mieux la culture.
Alors moi j'ai juste un petit clin d'œil à Stéphanie parce que c'est une passionnée de la graine.
Stéphanie,
voilà, si on l'avait pas, il faudrait l'inventer.
Je l'ai rencontrée, extraordinaire Stéphanie, un esprit vif. Plein de connaissances. Et il en faut des connaissances quand même pour savoir faire pousser tout ça. Bon, il y a quelques connaissances générales, voilà. Alors, l'émission se poursuit. Habituellement, je vous parle de jardinage, de techniques de jardinage, de comment on fait pousser des patates. Bon, là, les patates, on les a récoltées. Allez, je vous fais une petite liste, comme j'ai l'habitude de faire, par rapport à ce qu'on peut faire au mois d'août, dans la première quinzaine d'août, puisque cette émission va être diffusée première quinzaine d'août. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore semer au jardin en ce début du mois d'août ou jusqu'à la mi-août ? On peut semer de l'angélique, des cerfeuilles, de la chicorée frisée escarole, du chou chinois, de la coriandre, du cresson alénois, du cresson des jardins, des épinards, du fenouil, des épinards très importants, semer des épinards, du fenouil, des haricots. Alors, dans les régions les plus chaudes, le haricot, mais c'est possible, un haricot vraiment hâtif, voilà. Des laitues, évidemment. évidemment, vous pouvez semer de la mâche, vous pouvez semer des navets. Ça y est, c'est le moment. On envoie du navet. Le persil, profitez-en, semez-en encore. Poireaux à semer. Alors ça, c'est les poireaux pour le printemps prochain. Des radis pour cet automne et de la roquette. Je l'adore. Vive la roquette. Ça, c'est pour les choses à semer. Semer aussi, et c'est très important, des engrais verts. C'est le moment, si vous voulez nettoyer un sol, après la culture de patates, vous pouvez envoyer de l'engrais vert, vers, avoine, souvent des céréales, hein, qu'on, vous pouvez vous amuser à cultiver du blé. Hein. Allez-y, semez du blé, achetez des graines dans les supermarchés, et voyez si ça germe. Vous pouvez aussi semer des lentilles, hein. Ça aussi, ça marche très bien, et toute la saison chaude, elles vont germer allègrement, donc ça peut servir de couvre-sol improvisé. Voilà, et acheter à pas cher chez le marchand, chez l'épicier carrément. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez planter ? Qu'est-ce que vous devez planter ? Puisque si vous avez préparé le plan, vous aurez à les planter. Planter, pas semer, attention. Alors, chicorée frisé, escarole, chicorée sauvage, évidemment. Le chou brocoli se plante maintenant. Le chou fleur se plante maintenant. Le chou paumé, le fameux chou cabu, le rond, le bon. Alors, il y en a des rouges, il y en a des blancs. Il y en a des choux à choucroute. Le chou, c'est chou. Et donc là, le chou paumé, excellent. Plantez-le maintenant. Et puis, le chou qu'on se fait piquer, le chou qu'on se fait voler, le chou qu'on se fait chouraver, c'est le chourave, là aussi à planter. Bon, le fraisier, n'en parlons pas, c'est maintenant. C'est aussi important. Si vous voulez implanter des fraisiers, vous pouvez y aller, planter des fraisiers, acheter du plant dans les magasins ou piquer des plants ou des stolons, hein, à vos voisins. Vous pouvez planter du fraisier. De la laitue, excellente, la laitue. Toute l'année, hein, on peut semer de la laitue, sachons-le. Et quoi d'autre à faire ? Donc, couvrez et d'autres techniques, hein, si vous voulez, s'il fait très chaud et que vous voulez réussir vos plantations, vous pouvez couvrir vos plantations, par exemple, avec des cagettes pour les protéger du soleil. Alors, il faut évidemment bien les arroser, hein. Ça sera le conseil du mois d'août. On va parler du verger, vite fait. Que doit-on faire au verger en ce moment ? Alors, il y a plusieurs options. Alors, je vous parle à travers le bouquin de monsieur Jean-Paul Torres. Hein. C'est lui qui le conseille, ne l'oublions pas. Étayer les branches chargées de fruits. Et oui, quand les fruitiers sont lourdement chargés, si on n'a pas éclairci un peu les pommes ou enlevé, eh bien les branches peuvent être très lourdes et cassées. Alors, si elles cassent, c'est aussi des problèmes de taille, c'est parce que ça a été mal taillé, ou pas assez éclairci. Donc aussi, on peut les soutenir et mettre des gros piquets ou avec quelques cordes. Traiter au soufre contre l'oïdium. Alors le soufre, c'est une molécule naturelle qu'on trouve à la surface des volcans. On l'utilise depuis des millénaires. Bon, on peut en utiliser à bon escient pour lutter contre l'oïdium. L'oïdium, qu'est-ce que ça fait, Manu?
Ça fait ces taches blanches, notamment sur les cucurbitacées.
Voilà, alors oui, voilà, entre autres. Mais là, on parle des arbres fruitiers et on peut avoir de l'oïdium sur pas mal de fruitiers. Supprimer les pousses de framboisier qui s'écartent de l'alignement. Et ouais. On est radical, on enlève les rejets du framboisier, on essaye de le garder dans le rang. Et encore une fois, même au verger, on peut semer des engrais verts. Très intéressant de semer des engrais verts au verger. Voilà, j'aurais fait le tour des activités du jardin, j'aurais fait le tour de vos activités. Je vous remercie, Christelle, Manu, de nous avoir aujourd'hui parlé de jardinage. J'espère que vous reviendrez pour nous raconter vos expériences, parce que ça a l'air génial, quoi. Et que ça a l'air super gratifiant. Je suis vraiment heureux de recevoir, enfin, nous sommes heureux, auditeurs, auditrices, auditeurs d'Antenne Doc, de recevoir autant d'enthousiasme autour du jardin et de l'excitation que ça peut susciter. C'est quelque chose qui met en œuvre beaucoup de compétences et beaucoup d'amour parce qu'il faut de l'amour, parce qu'il faut semer. Sur ce, voilà la fin de notre émission. Merci à vous. Je vous souhaite un très bon été sous le soleil et vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine émission. On ne sait où. Bisous. Thank you.
Toujours de franchir les épreuves. Thank you.